Vous écoutez, on lit pour vous.
En tant qu'autiste, je refuse que mon existence soit instrumentalisée. Un texte de Dave Mercier paru le 29 septembre 2025 dans la presse. Malgré ce qu'en disent Donald Trump et Robert Kennedy fils, il n'existe pas de lien entre le Tylenol pris pendant la grossesse et l'autisme. Mais au-delà de la désinformation, cela entretient des perceptions négatives dont les personnes autistes peuvent bien se passer, explique l'auteur. Donald Trump et Robert F. Kennedy fils ont affirmé en conférence de presse que l'acétaminophène, Tylenol, utilisé par des millions de femmes enceintes, serait associé à l'autisme. Ils sont allés jusqu'à dire que les femmes devraient s'endurer plutôt que d'y recourir, et ont annoncé l'approbation d'urgence d'un prétendu traitement pour guérir l'autisme, la leucovorine. Comme autiste, je ne peux pas rester silencieux devant ce discours. Il présente des fautes scientifiques, mais surtout, il contribue à stigmatiser notre existence en présentant l'autisme comme une des conséquences possibles d'un médicament ou d'une décision médicale. Cette rhétorique n'apporte rien aux familles, encore moins aux personnes autistes. Elle entretient la peur, la culpabilisation et la désinformation. Une des recherches sur ce sujet a été publiée dans le Journal of the American Medical Association, JAMA, en 2024. L'étude portait sur près de 2,48 millions d'enfants en Suède, suivis entre 1995 et 2019. Les chercheurs ont comparé les risques d'autisme, de TDAH ou de déficience intellectuelle selon l'exposition à l'acétaminophène durant la grossesse. Résultat, lorsqu'on compare les enfants au sein d'une même fratrie, l'un exposé, l'autre non, aucune association significative n'est trouvée. La conclusion qui en est ressortie est que les liens observés avec d'autres méthodes s'expliquent aussi par des facteurs familiaux ou génétiques. Il serait donc généralisant de mettre en cause le Tylenol lui-même. Cette étude a été vulgarisée par l'organisme Autism Speaks, qui souligne que ces résultats rassurent les familles et confirment l'absence de preuves crédibles d'un lien causal entre acétaminophène et autisme. Le mythe des vaccins causant l'autisme. Quant aux vaccins, ils sont souvent instrumentalisés dans ce même type de discours. Le mythe d'un lien avec l'autisme est né en 1998 d'une étude frauduleuse du chercheur Andrew Wakefield, depuis rétracté. Pourtant, il continue d'être relayé par certains politiciens. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, rappelle clairement qu'il n'existe aucune preuve crédible liant les vaccins à l'autisme. Enfin, l'American Academy of Pediatrics, AAP, qui regroupe plus de 67 000 pédiatres aux États-Unis, a dénoncé ces nouvelles affirmations. Elle considère que relancer un débat déjà tranché scientifiquement nuit aux personnes autistes et à leurs familles, en détournant l'attention des vrais besoins, soutien, inclusion, services adaptés. Les effets délétères de la désinformation. Ces propos peuvent avoir des conséquences. D'abord, en présentant l'autisme comme le résultat d'une quelconque crise de santé publique ou de mauvaises habitudes à coup de généralisation, notamment sur la prise d'un médicament, on alimente la stigmatisation et l'idée que les personnes autistes sont des anomalies biologiques. Ce discours peut culpabiliser inutilement les parents. On crée dès lors des peurs infondées autour de l'acétaminophène, un médicament couramment utilisé de façon responsable par Monsieur et Madame Tout-le-Monde, en déclenchant une panique morale injustifiée. On nuit aussi à la confiance du public envers les médecins, pharmaciens et chercheurs lorsque des leaders politiques relaient des théories contestées sans consensus clair. Enfin, on réactive de vieux mythes liés à la santé publique, comme ceux déjà ravivés durant la pandémie de COVID-19 avec la vaccination qui causerait l'autisme. Mais au-delà des données, je voudrais témoigner de ce que cela signifie pour moi d'entendre ces discours. Chaque fois que j'entends qu'il faut prévenir l'autisme ou traiter l'autisme par une pilule miracle, j'ai l'impression qu'on nie ma dignité. On parle de moi comme si j'étais une erreur biologique. Oui, l'autisme entraîne des défis. Je dis parfois que j'aurais préféré ne pas l'avoir, mais il fait partie de moi et de ma façon d'être dans ce monde. Je ne suis pas un effet secondaire indésirable. Je suis une personne, avec mes forces et mes vulnérabilités, comme tout le monde. Ce dont les autistes ont besoin, ce n'est pas d'un médicament miracle inventé pour plaire à des électorats complotistes. Nous avons besoin de services adaptés, d'accompagnement en santé mentale, d'accès à l'emploi, de soutien aux familles et surtout de respect. Les dirigeants politiques qui répandent la peur n'aident pas la population. Ils la trahissent même. C'est ici que les médias ont un rôle qui est fondamental. S'assurer de la véracité des faits, donner la parole à de véritables experts ainsi qu'aux personnes concernées et présenter une diversité de points de vue. C'est comme cela que nous contribuons à contrer la désinformation. Je vis avec l'autisme, ça fait partie de ce que je suis, que j'en ai honte ou pas, mais je n'ai pas à me faire instrumentaliser comme arme politique. L'autisme n'est en rien un fléau à éradiquer, il peut même être une richesse. Des personnalités comme Anthony Hopkins, Louis T., Daryl Hannah ou, ironiquement, Elon Musk sont autistes. Nous faisons partie de la diversité de l'humanité et nous lui amenons nos couleurs. C'était « En tant qu'autiste, je refuse que mon existence soit instrumentalisée », un texte de Dave Mercier paru le 29 septembre 2025 dans La Presse.
Quand le soutien à domicile demeure un mirage, un texte de Nathalie Richard paru le 29 septembre 2025 dans La Presse. J'habite dans une maison de soins palliatifs pédiatriques depuis le 23 juillet dernier. Pourquoi? La raison est aussi cruelle que douce. J'accompagne mon fils polyhandicapé dans son parcours de fin de vie. J'en profite pour faire un clin d'œil au Phare Enfants et Familles, un endroit extraordinaire qui me permet de retrouver mon rôle de maman auprès de mon fils. Cela permet en outre à mon grand garçon de vivre ses dernières semaines dans la joie de vivre. En juin dernier, l'état de mon fils, qui était précaire depuis plusieurs années, s'est détérioré. Après de nombreuses visites à l'hôpital, nous sommes retournés à la maison avec un nouveau tube qui sort de son corps, une nouvelle routine médicale, un alourdissement des soins à domicile, mais surtout une augmentation considérable de sa souffrance. Je vous épargne les détails entourant mon niveau de stress et d'épuisement qui a atteint son apogée après 18 ans de soins médicaux complexes, de nuits entrecoupées, de traumatismes accumulés et de prises de décisions auxquelles aucun parent ne devrait avoir à réfléchir dans sa vie. S'ensuivent plusieurs rencontres avec divers spécialistes de l'hôpital, au cours desquelles on me propose, encore et toujours depuis 18 ans, une énième procédure médicale pour étirer l'espérance de vie de mon fils sans en améliorer la qualité. Un jour, il faudra avoir le courage de débattre, collectivement, des avancées médicales qui parfois frôlent l'acharnement chez certains patients. Un sujet de société nécessaire à aborder. En attendant, on nous renvoie à la maison, avec plus de soins, mais toujours aussi peu de soutien. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, témoignant d'une réalité absurde. Depuis une dizaine d'années, nous avons besoin d'environ 80 heures d'aide à domicile par semaine pour s'occuper des nombreux soins médicaux de mon fils. Je fais partie des rares privilégiés. Le programme Chèque emploi service couvre 52 heures. Le reste, on le paie de notre poche. Et lorsque la condition de mon fils s'est détériorée, qu'a-t-on ajouté? 6 petites heures de plus par semaine. Ce n'est même pas une heure par jour. Savez-vous combien de personnes font les soins de mon fils au Phare, la maison de soins palliatifs pédiatriques? Un minimum de 2 personnes, souvent 3 ou 4 et parfois 5. 5 personnes pour effectuer les soins que le CLSC juge réalisables par une seule personne. Cherchez l'erreur. On se demande ensuite pourquoi nous, les parents d'enfants lourdement handicapés nécessitant des soins complexes, auxquels le rôle encore trop peu reconnu de personnes proches aidantes s'ajoute, sommes épuisés. Un virage à ne pas manquer. Avec le dépôt attendu de la politique nationale sur les soins à domicile et la refonte du chèque emploi-service, il ne faut pas manquer la cible, celle d'offrir des services d'aide à domicile adéquats. Notre organisme, l'Étoile de Pachot, qui accompagne les parents d'enfants lourdement handicapés, propose depuis plusieurs années une solution simple au gouvernement. Garantir un accès équitable au répit à domicile partout au Québec avec les ressources d'aide et de soutien nécessaires, notamment par l'intermédiaire d'un pont administratif entre le programme SEHNSE, ministère de la Famille, et le chèque emploi-service, ministère de la Santé et des Services sociaux. Il est urgent d'agir maintenant en tenant réellement compte de la réalité du terrain. Ce dossier doit être une priorité de la nouvelle ministre Caroline Proulx d'ici Noël. Des milliers de familles sont en attente de services. Nous méritons d'être soutenus dans notre rôle de parents proches aidants. C'était « Quand le soutien à domicile demeure un mirage », un texte de Nathalie Richard, paru le 29 septembre 2025 dans La Presse.
D'amoureuse libre à proche aidante épuisée, un texte de Sylvia Galipeau, paru le 4 octobre 2025 dans La Presse. Après la journaliste, puis la romancière, voici l'amoureuse. Une femme furieusement libre, devenue avec les années proche aidante. Pas que pour le meilleur, mais beaucoup pour le pire. Michel Ouimet, dont on croyait plutôt bien connaître la plume, publie ces jours-ci son texte le plus intime à ce jour. Et sa fesse. Parce que parfois, pour survivre, ça prend ça. Il fallait que j'écrive cette histoire. J'ai commencé 6 mois après la mort d'André. Ça m'habitait trop, confie-t-elle d'emblée, attablée en ce vendredi matin radieux, dans un café où elle a ses habitudes. Et ça a été très thérapeutique. Dans « Ma bête », publié mardi prochain chez Boréal, un roman à 90% vrai, seuls certains noms ont été changés et quelques personnages inventés. L'autrice revient sur sa rencontre avec André, donc son André, sa fameuse bête. Un homme avec qui elle a partagé 30 ans de sa vie, qui a aussi reçu plusieurs diagnostics aussi effrayants qu'improbables avec les années, Parkinson, dépression, troubles anxieux, sans oublier cette aphasie primaire progressive de type sémantique. Dire qu'au début, ils en ont ri, d'une première gestion de crise, par le déni d'une série. Car cette aphasie à coucher dehors a un nom plus commun, disons. C'est une démence, finira-t-elle par comprendre, à force de fouiller le web pour éclairer ses comportements dérangeants, au mieux inhabituels, au pire meurtriers. Vous avez bien lu. Meurtrier. Le texte commence d'ailleurs sur ces mots brutaux. J'ai envie de te tuer. Ça fait une semaine qu'André me répète qu'il veut me tuer. Une envie qui lui reviendra sporadiquement, sans crier gare, qu'il mettra presque à exécution, en plus de la diriger vers son psy et même son propre fils. Imaginez l'effroi. On se souvient de l'écriture parfois cinglante, toujours directe, d'une précision redoutable, de la journaliste qui a couvert quantité de guerres, gravité 29 ans à La Presse, avant de prendre sa retraite en 2018. Après avoir publié quelques romans, La Promesse, L'heure mauve, L'homme au chat, Voici Michel Ouimet, toujours aussi direct, par bout effectivement cinglante, mais en prime, vulnérable. Envahi surtout d'une infinie culpabilité de laquelle elle peine à ce jour à se débarrasser. Même après 2 ans et 4 mois aujourd'hui, comme elle le précisera, de sa rigueur habituelle, pour souligner la date fatidique de la mort d'André. Avant d'aller plus loin, une précision. Certes, on a connu Michel Ouimet comme collègue, suffisamment intime pour nager à ses côtés plusieurs années, mais jamais assez pour connaître tous les détails de sa vie privée. Elle se dévoile ici sans pudeur, avec d'habiles allers-retours dans le temps, pour tricoter un récit où se mêlent drame et amour, maladie et passion, menace de mort et séduction. De leur toute première nuit ensemble, Phoque, un homme marié, quand elle avait 39 ans, jusqu'à la première fois où elle osera se dire veuve, à 70 ans, en passant par les divers et épiques séjours d'André aux urgences psychiatriques. Et ce n'est pas un hasard. Je ne voulais pas qu'André soit réduit à la maladie, explique-t-elle, les yeux tout à coup pleins d'eau, comme ils le resteront tout le long de l'entretien. Il a aussi été un amoureux, un père, etc. Mais André a été tellement diminué par la maladie. Ce n'était tellement pas lui, tellement plus lui. N'allez pas croire que leur histoire d'amour ait été fluide, cela dit. Tout le contraire. Leur amour a été compliqué. Comme beaucoup de relations, confirme-t-elle, avec plusieurs ruptures, des déménagements et une conjugalité essentiellement déconstruite. Lire, chacun chez soi. Des débuts jusqu'à la toute fin. Mais ça ne nous a pas empêchés de nous aimer. Même redoutable franchise du côté de sa maladie. Je découvre l'univers de la psychiatrie, résume-t-elle, avec son langage hermétique et toutes ses consignes sanitaires absurdes, en pleine pandémie, faut-il le préciser. Coup de gueule contre les maudites jaquettes d'hôpital inclus. Je ne veux pas régler de compte, nuance-t-elle. Mais je raconte la réalité comme je l'ai vécue. C'est ainsi que, tout en soulignant le professionnalisme de nombreux anges gardiens, Michel Ouimet ne se privera pas de faire du terrorisme téléphonique, ici ou là, pour avoir enfin divers services indispensables requis, couper les ongles, gérer les pilules, etc., notamment de la part du CLSC, supprimé pour d'obscurs motifs bureaucratiques. Et disons que, dans ce système médical carré, on n'est pas à une bureaucratie enrageante près, découvre-t-on au fil des pages et des crises d'André. Ça me fait beaucoup de bien de faire ce retour sur tout ce qui s'est passé, de mettre de l'ordre dans mes sentiments, d'enlever les tabous et de nommer la culpabilité que je vis encore. Ma psy était tout à fait d'accord pour que j'écrive ce livre. Je veux que les gens soient conscients à quel point les proches aidants sont abandonnés. Quand André est mort, j'étais épuisée psychiquement. Cela fait plus de 2 ans, on l'a dit. Elle va mieux, mais elle se sent encore fragile. Ça paraît. Elle craint de s'effondrer en entrevue, comme à son lancement prochainement. N'empêche que, fidèle à elle-même, Michel Ouimet conclut sur une note positive. Non, elle ne tournera jamais la page. Cette page est trop lourde. Le deuil prendra différentes formes, mais il sera toujours présent. Mais Dieu merci, elle a des petits-enfants aujourd'hui. Son vélo, la nage et des projets d'écriture. Non, André ne sera pas là quand je vais être vieille, c'est elle. Mais on verra. Je fais ce que je fais le mieux. Le déni, sourit-elle de nouveau enfin. C'était, d'amoureuse libre, à prochaine dente épuisée, un texte de Sylvia Gallipo, paru le 4 octobre 2025 dans la presse.
C'est Watsiwin. Ils sont sacrés. Repenser l'autisme à l'aune des savoirs autochtones. Un texte de Sarah-Louise Pelletier-Morin, paru le 30 septembre 2025 dans Le Devoir. Dans ces pages, nous écrivions récemment sur le film de la documentariste Kim Obomsawin, Ninan Awasat, filmé à hauteur d'enfant, capable d'embrasser la joie, la tendresse et la bienveillance envers la jeunesse autochtone. Le nouveau documentaire de la cinéaste, primé au Festival de cinéma de la ville de Québec, s'inscrit dans cette même éthique du regard. Dans « C'est Watsiwin, ils sont sacrés », on suit Anders, enfant autiste non-verbal, figure silencieuse mais solaire et sensible. Le film a été tourné au sein d'une communauté crie en Alberta où la réalisatrice a côtoyé Anders pendant un an, au plus près de son quotidien. Mais le projet naît d'abord d'un choc qui date d'une dizaine d'années. Citation : Le premier germe remonte à une visite dans la communauté Atikamekw de Manawan. Un ami, directeur d'école, me confie qu'une famille vient de quitter la communauté, faute de ressources pour le plus jeune, qui avait nouvellement reçu un diagnostic d'autisme. J'ai trouvé ça déchirant, devoir choisir entre sa culture et des services. Fin de citation. De cette blessure initiale jaillit une recherche. Citation. Comme beaucoup, j'avais des idées reçues sur l'autisme et un aîné m'a rappelé qu'au sein de plusieurs Premières Nations, on voyait ses enfants comme porteurs de dons entre le monde des esprits et celui des vivants. Fin de citation. En fouillant, Kim Obomsawin croise le travail de Grant Bruno, père Cree d'Anders, titulaire d'un doctorat en sciences médicales, qui collecte les perspectives d'aînés sur l'autisme. La rencontre fera le film et lui donnera sa voix. Une démarche qui demandait de la délicatesse pour cerner ce sujet avec soin. Citation. On suit un enfant qui parle très peu. Il fallait donc laisser tout l'espace à Anders, tout en portant une parole. J'ai longtemps pensé offrir cette narration au grand frère, puis c'est devenu évident. C'est un récit père-fils. La voix de Grant s'est imposée. Fin de citation. Une voix, ajoutons-le, qui porte une tendresse bouleversante. Le film avance ainsi au rythme d'Anders, loin des postures d'observation froide. Citation. On s'est dit, on va à son rythme et on verra. Au départ, rien ne garantissait qu'il accepterait la caméra. Finalement, il s'est lié d'amitié avec mon directeur photo, Hugo Gendron. Il jouait avec la caméra. Fin de citation. Cette alliance simple et précise, nourrie par une petite équipe de proches collaborateurs avec qui la réalisatrice travaille de longue date, installe une confiance rare. Citation. Avec Hugo, on se comprend sans se parler. Rentrer à la hauteur de l'enfant était crucial pour créer un lien avec lui, même s'il ne nous parle jamais. Fin de citation. En adoptant systématiquement ce point de vue, la mise en scène transforme aussi la position du spectateur. Regarder avec l'enfant, sa proximité des textures, de la nature, des sons, plutôt que de le surplomber. Les moments où Anders piège l'objectif, s'en approche, s'en amuse, font de la caméra un partenaire de jeu qui accueille son rythme. C'est Watsiwin propose surtout un lien entre deux mondes, le cadre biomédical dominant dans le monde occidental et des philosophies autochtones qui, sans nier les défis, valorisent d'abord des forces et qui conçoivent l'autisme comme un don. Citation. Dans le modèle occidental, on décrit l'autisme par une liste de déficits. La recherche de Grant montre tout ce qu'on a perdu avec la colonisation, des façons d'accueillir ses enfants. Fin de citation, dit Kim Obomsawin. Elle nuance, citation, « Élever un enfant autiste aujourd'hui, c'est plein de défis, mais tous les parents finissent par dire que ce qu'ils croyaient être une fatalité devient la plus belle aventure. On ralentit, On apprend sur la vie et sur soi. Fin de citation. Cette approche se traduit à l'écran par la transmission par les gestes, tente de sudation, pow-wow, chasse au gros gibier, gratitude envers le vivant, où le père enseigne des choses à son fils et, du même mouvement, nous les enseigne aussi. Les problèmes sociaux affleurent constamment, des ressources manquantes qui forcent encore des familles à quitter leur territoire, des savoirs érodés ici et mieux préservés dans l'Ouest, que le père ravive par la pratique et la parole. Et, alors que des déclarations politiques relancent périodiquement des théories simplistes sur les causes de l'autisme, Kim Obomsawin insiste sur un déplacement du regard. Décentrer la logique du déficit pour réhabiliter la relation sans minimiser les difficultés. Ce parti pris, qui refuse le sensationnalisme, cadre avec une continuité dans son œuvre, filmer des enfants joyeux dont on prend soin, prolongement de son film précédent. La réception ne trompe pas. Citation « Je craignais un sujet niché. » En fait, ça touche énormément les gens. Tout le monde connaît quelqu'un qui vit avec le spectre de l'autisme ou qui est neurodivergent. Je sens qu'il répond à un besoin que je ne soupçonnais pas. Fin de citation. La cinéaste regarde déjà devant. Citation « Je travaille sur deux longs-métrages, dont « Ces liens que nous ne voyons pas », sur des enfants disparus en contexte médical entre les années 1970 et 1990. Fin de citation. Avec Sewatsiwin, ils sont sacrés, Kim Obomsawin confirme sa place parmi les voix documentaires majeures au Québec. En suivant Anders, enfant autiste non-verbal, à hauteur d'enfant et sans misérabilisme, elle propose un film splendide visuellement où le regard se déplace, de la logique du déficit vers la reconnaissance des forces et de la transmission. L'œuvre nous invite à repenser notre rapport à l'autisme, souvent vu dans les traditions occidentales comme une « maladie à guérir ». La voix du père, Grant Bruno, structure le récit et ouvre un dialogue fécond entre savoir scientifique, rituel et quotidien familial. La relation père-fils y est d'une tendresse qui désarme, de beaux modèles encore ancrés dans la célébration de la joie et de la tradition. Kim Obomsawin s'entoure, comme toujours, de collaborateurs de talent, Hugo Gendron à l'image, Alexandre Lachance au montage, musique de Wilder Wolf, et sait filmer la jeunesse autochtone comme personne, attentive aux détails, aux relations familiales, tout en offrant de nouveaux récits de survivance autochtone. C'était Sewatsiwin, ils sont sacrés. Repenser l'autisme à l'aune des savoirs autochtones, un texte de Sarah-Louise Pelletier-Morin, paru le 30 septembre 2025 dans Le Devoir.